Être en état d'hypnose, c'est avoir basculé vers une réalité alternative qui est plus totalement ancrée dans la réalité physique. Salut, c'est Gilles pour le troisième épisode de Pendule et Pyjama, un podcast qui parle d'hypnose et de comment ça marche. Dans cet épisode, on va discuter de ce qu'est la réalité. Ça peut sembler un peu abstrait comme sujet, tenir plus de la philo que de l'hypnose, mais on va voir au contraire que c'est très concret et très lié. L'hypnose, ça consiste à basculer entre la réalité habituelle et une réalité alternative qui prend temporairement sa place. Une réalité alternative qui n'a pas à être logique, qui n'a pas à être partagée avec la réalité habituelle, ni celle des autres, et qui n'a même pas à respecter les lois de la physique. Une réalité dans laquelle tout est possible à partir du moment où on peut se l'imaginer. Alors c'est sûr que présenté comme ça, on dirait que je vais vendre une théorie à base de physique quantique, de dimensions parallèles, que je vais expliquer des trucs étranges de réalité multiple. Mais c'est beaucoup plus terre à terre. Ce dont il est vraiment question, c'est de comprendre que la réalité habituelle, celle dans laquelle on vit tous les jours, celle qui est dans nos têtes, c'est pas la réalité du monde physique. C'est une construction mentale, une manière de se représenter le monde tel qu'il devrait être à partir de ce que nos perceptions ont pu glaner comme information. Et comme c'est une construction mentale, et pas la vraie réalité du monde physique, et ben elle n'est pas aussi rigide qu'on pourrait le penser. Elle peut autoriser les trucs étranges qu'on observe en hypnose. Alors c'est quoi la réalité ? Si on ne s'est jamais trop posé la question, on va généralement penser à une réalité unique, qu'on partage avec tout le monde. A priori, ma femme, elle vit bien dans la même réalité que moi, tout comme mon fils, mon chat, mes voisins, mes collègues, mes clients, le reste du monde. Cette réalité, elle a des règles de fonctionnement qui sont stables. On sait dans les grandes lignes comment elle fonctionne, et on la comprend suffisamment pour être collectivement d'accord sur tout un tas de prédictions qui la concernent. Si là, aujourd'hui, je vous demande ce qui va se passer lorsque je lâche ma tasse de café, à quelques exceptions près, on saura collectivement qu'elle va chuter sans que j'ai besoin de le faire réellement, parce que c'est comme ça que fonctionne la réalité et que ces règles ne changent pas d'un jour à l'autre. Dans la même idée, si je la lâche pour de vrai, on va collectivement la voir tomber, parce qu'on a reçu les mêmes signaux visuels de l'environnement. Personne n'est censé voir autre chose que ce qui se produit dans la réalité. Personne n'est censé voir la tasse rester dans ma main ou flotter dans les airs alors que tous les autres la voient tomber. Si c'est le cas, il y aura une explication rationnelle. La personne, elle blague, elle a mal vu, elle a été victime d'une illusion d'optique, d'une hallucination. Dans tous les cas, ce qu'elle croit avoir vu, c'est pas réel, parce qu'à partir des mêmes signaux visuels que les autres, elle a une perception contradictoire, et qu'on sait que physiquement, ma tasse, elle peut pas avoir échuté et être restée dans ma main en même temps. Mais cette réalité unique partagée par tous, est-ce qu'elle est vraiment unique, et est-ce qu'elle est vraiment partagée? Eh bien d'abord, elle n'est pas unique parce qu'à toute époque, et encore aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'on croit collectivement être la réalité et ce que la science en révèle progressivement. Ce qu'on pense collectivement être la réalité à un instant donné, ça peut changer radicalement du tout au tout en fonction d'une découverte. Pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate, puis on a découvert qu'en fait, c'était un globe. La Terre plate, c'était une réalité. La Terre sous forme de globe, c'est notre réalité. Pourtant, elle n'a pas changé de forme, même si on était collectivement d'accord avant et qu'on est collectivement d'accord maintenant. La réalité, elle n'est pas unique, il y en a déjà au moins deux. Celle du monde physique, qu'on découvre petit à petit, et celle qui est partagée collectivement et qui peut être en contradiction avec la première sans même qu'on s'en rende compte. Ensuite, elle n'est pas vraiment partagée non plus, parce que même s'il y a une grande partie commune, on a d'un côté des gens qui ne la partagent pas du tout, qu'on considère comme déconnectés de la réalité, puis d'un autre côté, on a des gens qui la partagent dans l'ensemble, mais qui vivent des hallucinations bien réelles pour eux, mais qui sont dans leur tête pour les autres. Et encore d'un autre côté, on a tous ceux qui partagent l'essentiel, mais qui ont tout de même des compréhensions plus ou moins différentes de ce qui est réaliste ou non, en fonction de leur éducation ou de leur expérience. Il y a donc au moins autant de réalités que de personnes. Des réalités qui peuvent être très très proches, très très différentes, des réalités qui ne sont pas forcément toutes d'accord les unes avec les autres, même si elles partagent plus ou moins une base commune, celle de la réalité du monde physique. Donc non, la réalité unique que je partage avec ma femme, mon fils, mon chat, mes voisins, le reste du monde, elle n'existe pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a bien une réalité qu'on partage tous, celle du monde physique, mais c'est pas elle qu'on vit au quotidien. Celle qu'on vit au quotidien, c'est une réalité individuelle, personnelle, construite plus ou moins correctement à partir de la réalité physique, et plus ou moins similaire à celle des autres personnes. C'est une construction mentale qui est fabriquée sur mesure, pour soi, et qui s'adapte en fonction de ce qu'on perçoit pour coller du mieux possible à ce que devrait être la réalité. Une conséquence du fait que c'est une construction mentale, c'est qu'elle n'est pas concrète, rigide ou inflexible. Elle peut au contraire être modifiée, voire substituée par d'autres constructions mentales qui changent plus ou moins radicalement la perception de ce qui est réel ou non. Pour comprendre comment ça marche, il faut qu'on aille s'intéresser à comment fonctionne la réalité physique et comment fonctionnent les réalités individuelles. Le sujet, il est très vaste et ça fait plusieurs jours que je galère à garder le script concis, donc je vais essayer de faire au plus simple en gardant que l'essentiel de ce qui va nous intéresser. Et ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est la réalité physique. C'est pas possible de comprendre notre rapport à la réalité en se contentant de s'intéresser à ce qui se passe dans nos têtes, parce qu'on a des corps biologiques et que ces corps, ils sont en immersion dans une réalité qui est physique. Cette réalité physique, elle interagit avec nos corps, elle leur fait générer des sensations, ces sensations, elles sont éventuellement traduites en perceptions, et ces perceptions, elles viennent au final alimenter le rapport à la réalité. Le passage par la case « qu'est-ce que la réalité physique ?», il est nécessaire pour comprendre ce qui diffère entre la réalité physique et nos réalités individuelles. À la base de tout, il y a une réalité physique qui englobe absolument tout ce qui existe, jusqu'au moindre atome de la moindre galaxie de notre univers, mais aussi ce qui est en dehors de la matière, comme le temps, les forces, les lois de la physique, et qui ont un effet observable. Lorsque les sciences dites « dures », elles étudient notre environnement pour le comprendre, c'est cette réalité qui est étudiée. Et cette réalité, elle englobe absolument tout ce qui existe, elle est complète, exhaustive, et ça va être important pour la suite. On n'a pas pour autant besoin de tout comprendre sur elle. Nous, il y a trois caractéristiques qui vont nous intéresser pour la suite, parce qu'elles rentrent un peu en conflit avec les autres thèmes qui vont être abordés. La première caractéristique, la plus simple, c'est qu'elle est factuelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne dépend pas de nos connaissances, de nos compréhensions, de nos interprétations. Les choses existent dans cette réalité, et les événements s'y déroulent, point. Il y a des gens qui existent dans l'immeuble d'à côté, même si je ne sais pas qu'ils existent. Et derrière chaque affirmation que je peux faire sur cette réalité, mettons, dans l'immeuble d'à côté, il y a un monsieur qui a un béret, il y a une vérité factuelle qui existe. Oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Et ça, même si je le sais pas moi-même. Et comme elle est factuelle, ça veut dire qu'en cas de désaccord, il y a forcément l'un qui a raison et l'autre qui a tort, même si on n'est pas capable de savoir qui. C'est pas possible qu'il y ait deux vérités qui se contredisent au sein de cette réalité-là. La seconde caractéristique, c'est que cette réalité, elle est régie par un ensemble de règles qui s'appliquent où qu'on se trouve et qui permettent de faire des prédictions vérifiables sur son fonctionnement. Si je lâche ma tasse de café, je peux aussi bien prédire ce qui va se passer sur Terre que sur Mars, parce que partout où il y a de la gravité, les objets lourds y chutent plus ou moins vite. Jusqu'à un certain stade, on peut transposer ce qui se déroule dans la réalité physique en équation, et on peut comprendre comment se comporte la réalité avec un niveau de confiance plus ou moins grand. Si j'ai assez d'informations et les bonnes formules, je peux calculer de manière fiable la vitesse de chute de ma tasse de café sur Mars, même si je ne suis pas là-bas pour mesurer avec un chronomètre. J'ai une anecdote un peu plus impressionnante que ma tasse de café, mais il y a presque 2 siècles, on a vu des irrégularités sur la trajectoire d'Uranus. Et à partir de ces irrégularités et de règles connues, il y a un astronome qui a fait des calculs. Il a prédit que ça devait être causé par l'existence d'une planète à un certain endroit. Lorsque les astronomes d'un observatoire ils ont pointé le télescope à cet endroit, ils ont découvert Neptune pour la première fois. On a fait une observation, on a fait des calculs à partir d'informations recueillies et de certaines formules physiques qu'on maîtrise bien pour faire une prédiction sur l'existence d'une planète. Et on a constaté que la prédiction, elle était bonne avec une précision impressionnante. C'était pas un hasard, c'était pas un coup de bol chanceux. Aujourd'hui, vous écoutez peut-être sur votre téléphone mobile via le réseau Wi-Fi ce podcast que moi j'ai mis en ligne depuis ma connexion fibre optique. Et ça, c'est parce qu'on a suffisamment compris certaines des règles qui régissent la réalité pour avoir pu faire tout un tas de calculs, prédire qu'il serait possible de faire passer de l'information via des ondes, des particules, vérifier ses prédictions et inventer des technologies qui font partie maintenant du quotidien. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est important de comprendre que la réalité physique, elle est cohérente, rigide. Son fonctionnement, il reste stable. Il ne change pas tous les 4 matins, sinon on ne pourrait jamais la comprendre, on ne pourrait jamais en déduire des règles de fonctionnement. On ne pourrait pas les exploiter à notre avantage et la plupart des appareils qu'on utilise au quotidien ne pourraient pas exister. Cette stabilité, cette rigidité dans le fonctionnement, c'est aussi ce qui permet de jauger ce qui est réaliste ou non. C'est parce qu'on fait l'expérience indirecte de certaines règles qu'on les a intégrées et qu'on a des attentes sur ce qui est normal ou anormal dans la réalité. Si je mets un gros coup de pied dans un caillou, vous allez regarder où il chute devant moi, pas derrière et pas dans le ciel. Vous trouveriez anormal qu'il parte dans une autre direction que celle où je l'ai envoyé, même si vous n'êtes pas en train de vous demander c'est quoi l'équation qui décrit le coup de pied dans le caillou. Et cette notion de reconnaissance de ce qui est normal ou anormal vis-à-vis de la réalité physique, c'est aussi en partie ce qui nous fait dire que les autres partagent notre réalité ou non. Enfin, la troisième caractéristique, la dernière qui nous intéresse ici, c'est que son fonctionnement produit de l'information. La réalité physique, elle produit des particules, des molécules, des ondes, qui vont stimuler nos récepteurs sensoriels et produire des perceptions qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Mais cette information, elle est factuelle. Elle est dépourvue de sens subjectif. Une odeur, elle n'est pas plaisante ou déplaisante. Elle est juste le produit de quelque chose qui a émis une molécule qui existe physiquement et qui sera peut-être captée par un ou plusieurs destinataires. C'est les destinataires qui interpréteront l'odeur pour lui donner une propriété plaisante ou non. Et ça, c'est hors du champ de la réalité physique, c'est dans le champ de la réalité subjective. On va aussi voir que la réalité physique, bah, c'est pas la seule à produire de l'information. La réalité subjective, elle le fait aussi. Et une grande part de ce que certains appellent être ancré dans la réalité ou être déconnecté de la réalité, ça tient à notre capacité à identifier si les perceptions elles proviennent de la réalité physique, si elles sont produites par quelque chose qui existe réellement, ou si elles proviennent de la réalité subjective, si elles sont produites par notre imaginaire. On va revenir dessus dans un instant. Comme la réalité physique, elle est exhaustive, qu'elle contient tout, on est exposé qu'à une portion infinitésimale de ce qui s'y passe. On ne peut pas se la représenter telle qu'elle est vraiment. L'essentiel des signaux qu'elle produit nous échappe, soit parce qu'ils sont émis là où on n'est pas en mesure de les recevoir, soit parce qu'on n'est pas biologiquement équipé pour les capter, soit parce que la perception qu'on en fait, elle ne permet pas de les comprendre pleinement. Je ne vois pas ce qui se passe à l'autre bout du monde et que pourtant un autre humain est en train de voir. J'entends pas les ultrasons qu'entend mon chat là tout de suite à côté de moi. Et les couleurs que je vois en regardant ce qu'il y a sur mon bureau, c'est pas celles de la réalité physique, c'est celles que mon cerveau a pu interpréter grâce aux cônes dans mes yeux et qui sont pas les mêmes couleurs que voit mon chat, ni celles que verrait un daltonien. On fait pas l'expérience de la réalité telle qu'elle est, mais seulement une version réduite qui contient que les signaux auxquels on est exposé soi-même et qu'on va interpréter pour construire une réalité qui est bien à soi, une construction mentale, la réalité subjective. La réalité subjective, c'est une représentation personnelle de la réalité. Une construction mentale qui représente la réalité physique telle qu'elle devrait être au vu de ce que notre perception a pu interpréter, de ce qu'on a acquis comme connaissance dessus, et ce qu'on imagine être réaliste pour combler les trous laissés par les informations qui manquent. Elle est donc en partie construite à partir de l'imaginaire, elle n'est pas factuelle, c'est une approximation de la réalité physique qui varie pour tous en fonction de ce qu'on a perçu, ce qu'on a comme connaissance et ce qu'on pense être réaliste. Mais plus que ça, c'est une réalité dans laquelle peuvent exister des concepts qui n'ont pas d'existence physique. Je peux imaginer un objet qui n'existe pas, le décrire à quelqu'un qui va l'imaginer lui aussi, et alors l'objet il existe pour nous deux, on pourra le décrire, on pourra imaginer comment il se comporte, ses caractéristiques, sans qu'il existe réellement. À partir de maintenant, lorsque je parlerai de réalité sans préciser de laquelle, ce sera toujours de la réalité subjective, parce que c'est celle dont on fait l'expérience, c'est d'elle qu'on parle en général. La réalité subjective, elle est fortement influencée par les informations qu'on reçoit et qui vont modifier notre construction mentale. Je peux vivre une vie entière en pensant que le monde y fonctionne d'une certaine façon et recevoir une nouvelle information qui modifie radicalement ma compréhension du monde. Si j'ai toujours appris qu'en réalité la Terre elle est plate, j'ai une représentation qui est construite autour de ça et qui va influencer toutes mes interprétations. Il y a un bout du monde au-delà duquel on tombe, il y a un dessus et un dessous. Le soleil et la lune, ils tournent au-dessus de nous. C'est leur déplacement et leur distance qui crée le jour, la nuit, les saisons. Mais si j'apprends ensuite de sources sûres que c'est en réalité un globe qui tourne autour du soleil, qui tourne sur lui-même avec une lune qui lui tourne autour, bah toutes les interprétations précédentes, elles volent en éclats. La représentation, elle change complètement et elle permet de nouvelles interprétations qui ne pouvaient même pas exister avant. Il n'y a pas de bout du monde, il n'y a pas de dessus et de dessous, c'est la rotation de la Terre et son inclinaison qui crée le jour, la nuit, les saisons. Et en réalité, il n'y a rien qu'à changer dans la réalité physique. Par contre, la réalité subjective, elle est complètement altérée. Les choses fonctionnent plus du tout comme je le pensais. Ma compréhension du monde, elle est plus du tout la même. La réalité subjective, c'est la manière dont on pense que la réalité se déroule. Et elle est non seulement individuelle, mais aussi potentiellement en conflit avec les réalités subjectives des autres et avec la réalité physique elle-même. On va faire juste un petit jeu d'imagination pour aller plus loin sur ce thème. Si deux personnes me voient prendre un objet dans un magasin et sortir sans payer, l'une va peut-être penser que je l'ai volé, et l'autre peut-être penser que je l'ai payé d'avance. Elles ont observé la même chose, elles ont les mêmes informations visuelles en provenance de la réalité physique, mais elles ont des réalités qui sont conflictuelles entre elles. Si elles décrivent factuellement ce qu'elles ont vu, à savoir la même chose, aucune n'a tort. Mais si elles expliquent ce qu'elles pensent avoir vu, je l'ai volé ou je l'ai payé d'avance, l'une va décrire un événement qui est factuellement faux. Si ensuite, elles racontent la scène à des amis qui n'y ont pas assisté, et qui ont donc des informations en moins parce qu'ils n'ont pas vu la scène de leurs yeux, certains ne vont pas y croire, d'autres vont y croire, d'autres vont peut-être croire que la scène elle s'est déroulée mais pas exactement comme elle a été vue, ou alors qu'elle a été mal interprétée, ou qu'il y a peut-être une explication qui justifie mon geste. Il existera plusieurs réalités conflictuelles en fonction de ce que les gens ont vu de ce qu'ils connaissent de moi et de ce qu'ils jugent réaliste. D'une même réalité physique où il s'est factuellement passé un événement, j'ai pris l'objet et je suis sorti sans payer, il en découle plusieurs réalités contradictoires parce que tout le monde n'a pas les mêmes informations et interprète la situation différemment. Il y a bien une vérité factuelle, mais il y a plusieurs vérités subjectives. Et dans l'absolu, personne s'est trompé ou a menti sur ce qu'il a vu. L'erreur, elle est dans l'interprétation et pas dans le déroulement de l'événement. Et ces réalités contradictoires, elles vont forger la manière dont chaque individu va interagir avec moi à l'avenir. Certains me feront plus confiance, d'autres si. Certains ils me verront malhonnête, d'autres non. Il est donc possible de vivre dans la même réalité physique, d'être d'accord sur ce qui se passe factuellement, mais d'avoir quand même des réalités subjectives contradictoires. Mais les conflits ne découlent pas seulement du manque d'informations. Ils peuvent aussi découler d'une réalité subjective qui est plus ancrée dans l'imaginaire que dans la réalité, de perceptions qui proviennent de l'imaginaire d'une personne et pas de la réalité physique qu'on partage. Si une personne a des hallucinations et me dit qu'elle voit un chien à mes pieds, et que moi je vois pas de chien, nos réalités elles sont en conflit. Le chien il existe dans sa réalité à elle et pas dans la mienne. Il est donc possible d'avoir des réalités conflictuelles, contradictoires, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qui se passe dans la réalité physique. Possiblement parce que l'une des réalités subjectives elle est en conflit avec la réalité physique. On va y revenir dans un instant. Comme toutes les réalités subjectives sont différentes, elles sont toutes en conflit potentiel les unes avec les autres sur leurs aspects contradictoires. Tant que ces contradictions ne sont pas visibles, les personnes elles ont l'impression de partager la même réalité. C'est lorsqu'une des contradictions elle, se révèle que les conflits surviennent et qui peuvent mettre en évidence des réalités différentes. Et si on accepte qu'il y a une multitude de réalités subjectives et qu'elles peuvent être en conflit les unes avec les autres parce qu'elles sont toutes des approximations de la réalité physique, avec une part d'interprétation propre, on ne peut plus considérer notre réalité comme juste et celles qui sont conflictuelles comme fausses. La question, elle se résume à savoir si les écarts entre nos réalités, elles sont causées par un manque d'information et une mauvaise interprétation, ou bien par le fait que l'une ou l'autre est plus ancrée dans l'imaginaire que dans la réalité physique. Des points de vue individuels, elles sont justes. Maintenant qu'on comprend mieux la différence entre la réalité physique et la réalité subjective, il est temps d'aborder la réalité ordinaire et les réalités alternatives, qui sont les deux expériences de réalités subjectives différentes. On a tous une réalité dans laquelle on se reconnaît au quotidien. C'est notre réalité ordinaire. Elle est ordinaire parce que c'est celle dans laquelle notre conscience elle évolue ordinairement. Cette réalité, elle a une continuité. On la quitte en s'endormant, on la retrouve au réveil. On la reconnaît parce que c'est la même qu'hier. C'est celle dans laquelle on a une histoire passée, dans laquelle on fait des projets en anticipant qu'ils auront un effet sur l'avenir. Elle est tellement reconnaissable qu'au réveil, on sait instantanément qu'on est bien réveillé. On y a nos habitudes, on comprend globalement comment elles fonctionnent, et on sait ce qui s'y trouve même lorsque ce n'est pas en notre présence. Peu importe qu'elle soit saine ou pathologique, c'est celle dans laquelle on est plongé dans notre état ordinaire. C'est celle qui est reconnaissable parmi mille. Mais ce n'est pas pour autant la seule qu'on connaît. On peut aussi faire l'expérience de réalité alternative. Pendant une crise psychotique, une personne qui est atteinte, elle peut perdre presque tout contact avec la réalité et halluciner des événements impossibles dans sa réalité ordinaire ou même dans la réalité physique, avec la certitude qu'ils sont réels sans réaliser qu'ils sont le produit de son imagination. Elle bascule dans une nouvelle réalité, une réalité alternative, autre que sa réalité ordinaire, et dans laquelle ce qu'elle a imaginé produit des sensations et des perceptions qui sont tout aussi réelles que si elles provenaient du monde extérieur. Cette bascule, on pourrait être tenté de se dire que c'est la conséquence d'une pathologie, mais en fait, même sans être atteint de psychose, on vit tous des bascules similaires avec le rêve et on peut tous en vivre avec l'hypnose, ou même pendant un état de choc. Même si j'adhère pas à tout ce qu'il a produit, Freud évoquait le rêve comme une psychose inoffensive et je trouve que c'est une bonne manière de le décrire. Des études ont présenté suffisamment de données pour mettre en évidence des similarités de fonctionnement entre l'état mental normal du rêve et l'état mental anormal de la psychose. Dans les deux cas, la réalité imaginaire, elle prend le dessus sur la réalité ordinaire, elle fait perdre le contact avec elle, elle provoque des hallucinations d'événements impossibles qui pourtant sont acceptés comme réels jusqu'à ce qu'on sorte de la crise ou du rêve et qu'on retrouve la réalité ordinaire. La différence majeure, c'est que la psychose du rêve, elle est limitée au monde imaginaire, elle ne fait pas irruption dans la réalité ordinaire de la personne. Et la même chose peut être dite de l'hypnose. D'ailleurs, pour certains, l'état d'hypnose, c'est une psychose induite artificiellement et qui se dissipe au réveil. Chez un sujet sain, elle est aussi inoffensive que le rêve parce qu'elle est limitée au monde imaginaire et elle ne fait pas irruption dans la réalité ordinaire. Elle débute et elle se termine avec la séance. C'est précisément ce qu'on observe lorsqu'on assiste à un spectacle où il y a une personne qui se comporte d'abord normalement en montant sur scène, Puis d'un coup, de manière complètement bizarre, elle mange un oignon en pensant que c'est une pomme. Elle voit des animaux apparaître dans la paume d'une main. Elle pense naturellement qu'elle s'est toujours appelée courgette sans que ça lui semble anormal. Jusqu'à ce qu'elle se réveille et qu'elle trouve ça amusant et absurde d'avoir pu avoir ce comportement. Elle n'est pas dans sa réalité ordinaire. Elle est dans la réalité alternative de la transe, qui est similaire à celle du rêve, et avec des perceptions qui proviennent de l'imaginaire, même si c'est complètement absurde et conflictuel avec sa réalité ordinaire. Lorsqu'elle croque un oignon en pensant que c'est une pomme et qu'elle la trouve délicieusement juteuse, c'est réellement ce qu'elle perçoit, parce que ses perceptions, elles sont plus dans la réalité ordinaire, elles proviennent de l'imaginaire. Elle voit la pomme, elle sent son odeur, elle ressent son goût. Elle voit vraiment les animaux dans la paume de sa main et elle a vraiment la certitude de s'appeler courgette. En bref, il existe avec le rêve et l'hypnose la possibilité de basculer temporairement de la réalité ordinaire vers une réalité alternative. Qu'on l'appelle psychose inoffensive ou psychose artificiellement induite, peu importe. L'idée reste que temporairement, la personne, elle perd le contact avec la réalité, elle vit de manière réelle des événements impossibles sans qu'ils lui semblent irréels et elle perçoit les sensations du monde imaginaire comme si elles provenaient du monde extérieur. Sa réalité subjective, sa construction mentale, elle a été remplacée par une autre qui permet que se produisent des événements que sa réalité ordinaire, elle refuserait. Les réalités alternatives, c'est des réalités qui prennent temporairement la place de la réalité ordinaire. Elles peuvent reprendre plus ou moins d'éléments de celle-ci, mais au final, ce qui s'y trouve a ni à être cohérent avec elle, ni même réaliste. Un rêve, il peut être en apparence identique à la réalité ordinaire, mais permettre à des animaux de parler, de contenir des personnes qui n'ont jamais existé, nous attribuer des aptitudes comme voler ou déplacer des objets par la pensée, nous attribuer des émotions de peur intense à la vue de monstres, tout un tas de choses qu'on n'accepterait pas comme réalistes dans la vie de tous les jours. Lorsque la réalité alternative elle est en place, elle devient temporairement la nouvelle réalité ordinaire, celle qu'on reconnaît, celle dans laquelle tout ce qui se déroule est normal, on comprend son fonctionnement, on a l'impression d'y avoir une histoire, un passé, un futur, des projets, et tout nous semble complètement réel, même si au final, son existence, elle a duré que quelques minutes. Ce qui rend la réalité alternative étrange, c'est sa comparaison à une réalité qui est ancrée dans la réalité physique. Par exemple, lorsque je me réveille d'un rêve ou d'une transe et que je réalise que ce que j'ai vécu est anormal, c'est parce que ma réalité ordinaire, elle ne l'autorise pas. Ou lorsque j'observe quelqu'un qui est dans une réalité alternative et que ses perceptions, elles sont contradictoires avec les miennes, si une personne regarde fixement un chiot devant elle, sourit comme si elle allait faire quelque chose de mignon et que moi je vois rien du tout, c'est le décalage entre ce qui existe pour elle et ce qui n'existe pas pour moi qui rend la situation étrange. Parce que de mon point de vue, elle ne peut pas voir ce qui n'existe pas dans la réalité physique. Je dis depuis tout à l'heure que les réalités alternatives, elles se substituent à la réalité ordinaire. C'est un peu plus subtil. En fait, c'est plus un glissement de l'une vers l'autre qui fait que par moment, la réalité ordinaire et la réalité alternative, elles coexistent, même si elles se contredisent. Et que par moment, la réalité ordinaire, elle est complètement dissipée au profit de la réalité alternative. Si vous assistez à une séance d'hypnose et que l'hypnotiseur met en place un phénomène hypnotique, comme mettons coller les pieds au sol, faire oublier le prénom, créer une hallucination, vous allez constater deux réactions typiques chez les sujets. La première réaction, c'est celle de la surprise lorsque le phénomène fonctionne. La personne, elle est à cheval entre sa réalité ordinaire et la réalité alternative de la transe. Dans l'une, elle s'attend à ce que le phénomène ne se produise pas, parce que ce n'est pas possible. Dans l'autre, le phénomène il se produit malgré tout et elle le constate. Les deux réalités, elles coexistent. Et c'est ça qui crée la surprise, c'est qu'elle peut faire le constat du décalage entre ce à quoi elle s'attend et ce qui se passe réellement. Ce à quoi elle s'attend dans sa réalité ordinaire et ce qui se passe réellement dans la réalité alternative de la transe. Ça se traduit en général par la surprise, le wow, il se passe quoi ou le ah, c'est marrant, je comprends pas pourquoi, mais ça marche. Lorsque je débutais l'hypnose, j'ai fait une séance avec ma femme et après avoir induit une transe, j'ai suggéré juste que son bras bouge tout seul. Lorsqu'elle a senti son bras partir dans une direction, elle a immédiatement repris le contrôle et elle a ouvert les yeux. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, sa réponse c'était j'ai eu peur, je m'attendais pas à ce que ça marche, que ça bouge vraiment tout seul, ça m'a fait trop bizarre. Donc elle n'était pas totalement dans sa réalité ordinaire, parce que dans cette réalité, un bras qui bouge tout seul, c'est pas possible, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Et elle n'était pas non plus totalement dans la réalité alternative, parce qu'elle était encore capable de jauger ce qui était normal ou non par rapport à sa réalité ordinaire. La seconde réaction, beaucoup plus intéressante, c'est l'absence totale de surprise. Ce que moi j'appelle le oui et alors. Et qui indique en fait que la personne, elle a quitté sa réalité ordinaire pour la réalité alternative. Elle a plus d'étonnement parce qu'elle a plus de point de comparaison. La réalité alternative, c'est la réalité normale. Ce qui s'y passe n'est pas étonnant. C'est comme dans un rêve où tout est possible. Si le phénomène, il se produit, il n'y a rien d'étonnant puisque l'hypnotiseur a dit que lorsqu'il suggérait quelque chose, bah, ça se passerait. Et puis, bah, comme il l'a suggéré, pourquoi ça ne serait pas produit? Alors certains expliquent ça par une inhibition du facteur critique, la personne elle sera en mode automatique, elle s'exécute sans réfléchir, mais même si c'est effectivement le cas parfois, elles peuvent aussi avoir un discours qui est très réfléchi et s'opposer à certaines suggestions tout en acceptant d'autres, elles ne sont pas si automatiques que ça. C'est uniquement lorsqu'on fait la suggestion de revenir à la normale, de revenir à la réalité et de se rappeler de tout que les phénomènes y deviennent étranges. C'est quand la personne elle peut comparer la réalité alternative de la transe qu'elle vient de vivre avec sa réalité ordinaire. Cette semaine, pendant une séance, j'ai suggéré un remplacement du prénom par courgette, ce que je fais souvent pour valider l'amnésie. Lorsque la personne, elle a rouvert les yeux et que je lui ai demandé son prénom, elle m'a répondu courgette sans sourire. Je lui ai demandé si elle en était sûre, et elle m'a regardé avec un regard d'incompréhension complet, en me répondant perplexe, bah oui, je suis sûre. De la même manière que si quelqu'un me demandait à moi si je suis sûr de m'appeler Gilles. Je lui ai demandé depuis quand elle s'appelait comme ça. Et avec la même incompréhension, elle m'a répondu, bah, depuis que je suis née. C'est que lorsque j'ai suggéré que le vrai prénom revienne et qu'elle se rappelle de tout ce qu'on a fait, que le sourire il est instantanément apparu en réalisant ce qui s'était passé. Lorsqu'une personne elle est en état d'hypnose, elle est dans une réalité alternative, partielle ou complète. Et c'est en partie pour ça qu'elle se comporte comme elle se comporte. Il y a d'autres notions en jeu, et je simplifie un peu parce qu'on les abordera dans les épisodes à venir, mais pour qu'il y ait une hypnose, il faut déjà qu'il y ait une bascule vers une réalité alternative qui est plus ancrée dans l'imaginaire que dans la réalité physique. Une réalité dont les perceptions elles proviennent plus nécessairement de l'extérieur, mais de l'imaginaire. Une réalité qui peut être incohérente pour l'observateur externe et pour la personne dans son état normal, mais qui est tout à fait cohérente et réaliste dans son état de transe. La personne qui pense s'appeler Courgette, elle n'a pas l'impression d'être incohérente. Elle est dans une réalité alternative où c'est vraiment son prénom. Ça l'a vraiment toujours été, et si je lui disais qu'elle s'appelle réellement Anne, de son point de vue, c'est moi qui suis incohérent de lui assigner un prénom. C'est comme si là, tout de suite, quelqu'un venait me voir en me disant, t'es sûr que tu t'appelles Gilles? Non, ton vrai prénom, c'est Jean. Bah ouais, dans tes rêves, moi je sais comment je m'appelle. Pour résumer, la représentation de la réalité, elle est à la base du rêve et de l'hypnose. L'un comme l'autre, ils exploitent la capacité de notre esprit à pouvoir basculer d'une réalité ordinaire à une réalité alternative. C'est-à-dire modifier sa représentation de la réalité pour passer d'une réalité qui est ancrée à la réalité physique vers une réalité qui est ancrée dans l'imaginaire et qui n'est pas soumise aux contraintes du monde physique. Il n'y a rien d'étrange ou surnaturel là-dedans. C'est quelque chose qu'on vit tous à chaque sommeil lorsqu'on quitte la réalité de l'éveil pour entrer dans la réalité du rêve. Et la transe hypnotique, ça produit un phénomène similaire à la différence que la bascule, elle se produit à l'état d'éveil et l'induction hypnotique, elle remplace le cycle du sommeil. Ce qui rend ça déroutant pour un observateur, c'est que la bascule, elle n'est pas visible. C'est les effets qui le sont. Avant d'entrer en état d'hypnose, le volontaire, il se comporte d'une manière qui est cohérente pour l'observateur. Les deux réalités, elles sont relativement alignées sur ce qui est réaliste, mais une fois sous hypnose, le volontaire, il se comporte de manière anormale pour l'observateur. Il y a un décalage entre leur réalité, et c'est de ce décalage que naît l'incrédulité. Comment une personne qui était normale, il y a un instant, elle pourrait tout d'un coup trouver normal de voir, entendre ou ressentir des choses qui n'ont pas d'origine dans le monde réel et qui n'existent pas pour les autres. Les phénomènes hypnotiques, ils s'expliquent pas que par la perception de la réalité, il y a d'autres notions en jeu, mais c'est une première composante importante. Parce qu'avant même qu'un phénomène hypnotique puisse se produire, faut déjà que la réalité de la personne, elle l'interdise pas. Et le but de l'induction, c'est en partie de provoquer la bascule depuis la réalité ordinaire, où les suggestions, elles n'ont pas de prise, vers une réalité alternative, où elles en ont une. La bascule entre les réalités, elle est rendue possible par le fait que la réalité subjective, c'est une construction mentale, et qu'elle peut donc être altérée, construite et déconstruite. C'est ce qui arrive quand une personne arrive en séance pour se débarrasser d'une phobie des araignées et en ressortant. Elle arrive avec une réalité ordinaire dans laquelle elle a une peur disproportionnée. En séance, elle bascule dans une réalité alternative dans laquelle les suggestions de l'hypnotiseur ont des effets et peuvent modifier sa réalité ordinaire. Et elle se réveille avec une réalité ordinaire qui a été altérée et dans laquelle les araignées, elles, sont moins effrayantes. La réalité du monde physique, elle n'a pas changé. Les araignées, elles en font toujours partie. Elles ne sont pas plus ou moins dangereuses qu'avant. Et ce n'est pas le fait d'avoir reçu une suggestion ou d'avoir été convaincu par des arguments rationnels qui fait disparaître la phobie. Sinon, il suffirait d'avoir une discussion autour d'un café, ça suffirait. C'est le fait que durant la séance, l'hypnotiseur, il profite de la transe pour altérer la construction mentale et faire disparaître les raisons qui amènent les araignées à faire si peur. De la même manière, c'est ce qui arrive lorsqu'une personne en spectacle, elle a un comportement complètement absurde. Et c'est ce qui explique pourquoi elle est étonnée ou incrédule face à ce qu'elle a fait lorsqu'elle est réveillée de sa transe. Elle n'était pas dans sa réalité ordinaire. L'espace d'un instant, sa construction mentale de la réalité, elle a été remplacée par une autre, dans laquelle son comportement absurde, bah, il était normal. Et c'est lorsqu'elle revient à elle qu'elle réalise en quoi il était absurde. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. Dans le prochain, je parlerai de la construction de la personnalité, des personnalités secondaires, de leur lien avec les différentes réalités abordées aujourd'hui, et je démystifierai un peu le sujet de l'inconscient. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être averti des futurs épisodes sur les plateformes où c'est possible. Vous pouvez me suivre sur le Twitter @thehypnocat et vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, commentaires et suggestions par mail à gilles@hypno.cat pour que je puisse en tenir compte dans les futurs épisodes. Portez-vous bien et à bientôt.